le principal obstacle au bonheur, c'est nos propres pensées.
C'est pas quelque chose d'extérieur à soi.
Le bonheur, pour moi, c'est la liberté.
Pour moi, c'est très simple, en fait, le bonheur. C'est juste être.
Bienvenue sur le podcast « C'est quoi le bonheur pour vous ?» Je m'appelle Julien Perron. Je suis le réalisateur du film « C'est quoi le bonheur pour vous ?» Pendant plus de 4 ans, je suis parti à travers le monde pour interviewer 1500 personnes autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi.
Embarquez pour un voyage intérieur du 2 au 4 août au Hameau de l'Étoile, proche de Montpellier. Après le succès du premier congrès « C'est quoi le bonheur pour vous ?», nous vous proposons de prolonger l'expérience avec ce week-end immersif inédit. Dans un cadre magique, venez vivre 2 jours hors du temps pour prendre soin de vous. Une expérience immersive unique, guidée par David Tan, Alexandre Antonienko et moi-même. Durant ce week-end, vous serez plongé dans un programme soigneusement conçu pour vous aider à explorer les différentes facettes de vous-même. Le corps, le cœur et l'esprit. Que vous soyez en quête de sens, de transformation ou simplement curieux de découvrir ce que la vie a à vous offrir, que vous soyez seul, en famille ou entre amis, rejoignez-nous pour ce week-end inédit qui promet d'être une expérience inoubliable. Rendez-vous sur le site c'estquoilebonheur.fr pour rejoindre l'aventure. À très vite les amis.
Je n'ai pas envie d'appliquer sur l'enfant une méthode ou une croyance ou une vision de l'éducation. Ce qui m'intéresse, c'est comment nourrir les besoins de l'enfant.
Tout le monde remarque que les élèves qui refusent d'apprendre à l'école apprennent plein de choses en dehors de l'école.
Pour moi, c'est vraiment une attitude de l'adulte, un regard vis-à-vis de l'enfance qui change.
Pour moi, l'école de la vie, c'est l'école des rêves, c'est l'école qui permet de réaliser ses rêves.
Bienvenue sur le podcast Innovation en éducation. Je m'appelle Julien Perron, je suis à l'initiative du Festival pour l'école de la vie et du Congrès Innovation en éducation à Paris et à Montpellier. Voilà maintenant plus de 8 ans que je mets beaucoup d'énergie autour de l'éducation, convaincu que tout part de là. À travers ce podcast, vous allez découvrir de nombreux professionnels qui se mobilisent pour accompagner les parents, les enfants et les enseignants. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de l'éducation positive.
Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Anne-Françoise de Saint-Albin. Après des études dans le management hôtelier et une longue pause professionnelle pour élever ses 3 enfants, Anne-Françoise se découvre une passion pour l'éducation. Elle travaille depuis 6 ans dans la Fondation pour l'école, une fondation reconnue d'utilité publique qui œuvre pour la défense de la liberté et la diversité scolaire, à travers le soutien aux écoles indépendantes. Anne-Françoise est responsable communication et développement et coordonne l'organisation du salon LIPSCO, le salon annuel de la liberté scolaire. Je vous souhaite une belle écoute.
Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien là où vous êtes. Moi ça va très bien, j'ai passé une belle matinée. J'étais en train de parler tout à l'heure en off, il y a une 20aine de minutes, avec Anne-Françoise de Saint-Aubin, qui représente la Fondation pour l'école, avec laquelle on va parler de la Fondation, d'école alternative et plein de choses. Aujourd'hui, on se retrouve sous l'écosystème Innovation en éducation, c'est qui représente maintenant un certain nombre d'outils. Il y a un podcast Innovation en éducation, le congrès Innovation en éducation, qui va avoir lieu d'ailleurs le 2 et le 3 novembre au Centre des congrès de Grenoble, pour ceux qui ont envie de venir. C'est une salle qui peut accueillir 600 personnes. Généralement, de ce qu'on observe avec cette 6e édition, c'est que 80% des personnes qui viennent sont des enseignants, des professeurs d'école, des professionnels dans le monde de l'éducation. 90% de ces 80% sont des parents. Et puis après, c'est toutes les personnes qui s'intéressent à l'éducation au sens large du terme. En tout cas, quoi qu'il en soit, c'est un très bel événement. On passe vraiment un bon moment. C'est très revigorant pour tout le monde. Ça nous permet de découvrir beaucoup de choses dans le monde de l'éducation. Cette année, il y aura 30 stands aussi sur place. Et la nouveauté, c'est qu'il y aura aussi 8 ateliers où on pourra découvrir des outils autour de nouvelles pédagogies ou globalement autour de l'éducation. Mis à côté de ça, on est en ce moment en train d'avancer sur le prochain magazine Innovation en éducation. Je vous montre la page de couverture. qui s'appelle « Éducation positive, ça va trop loin », qui va sortir donc au mois de... Alors, en TD, on est au mois de mars, donc il va sortir au mois de mai. Passionnant encore, un magazine passionnant. On est déjà en train de finaliser la réception de tous les articles. Ça va être très intéressant. En fait, c'est un sujet qui est assez clivant, donc on voulait l'aborder. Non pas qu'il l'était, mais il l'est devenu avec des personnes qui sont positionnées de manière extrêmement virulente contre l'éducation positive et l'éducation bienveillante. Et donc pour nous, c'était peut-être intéressant, non pas de trancher, mais en tout cas de peut-être de faire la part des choses entre peut-être ce qui est positif et ce qui est négatif, en tout cas d'amener un débat un peu différent que cette façon un peu tranchée qui a été médiatisée ces derniers mois. On a fait une petite vidéo justement pour vous parler du numéro 20 et ensuite on se retrouve tout de suite après. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour parler du prochain magazine Innovation et l'éducation numéro 20, entièrement consacré à l'éducation positive. Sommes-nous allés trop loin ? Nombreux sont les podcasts et les interviews qui tirent à boulets rouges sur l'éducation bienveillante et ses apôtres. Elle serait responsable du gâchis de toute une génération d'enfants rois immatures, incapables de tolérer la moindre frustration. Alors ils ont peut-être raison, certains parents sont allés beaucoup trop loin, en se soumettant à la dictature des émotions de leur progéniture. Est-ce pour autant qu'il faudrait revenir à une éducation plus ancienne ? Existe-t-il une troisième voie, la voie du milieu ? C'est tout l'enjeu du prochain magazine Innovation et l'éducation, garder ce qui nous semble le plus cohérent et abandonner définitivement ce qui nous semble vraiment désuet. Si vous n'êtes pas encore abonné au magazine Innovation et l'éducation, vous allez voir, le lien va apparaître en bas de l'écran. Et en quelques clics, vous pourrez rejoindre les plus de 6000 abonnés dans 40 pays. Je vous souhaite le meilleur là où vous êtes et je vous dis à très vite pour le prochain magazine Innovation en éducation. Et oui, ça va être encore une petite pépite ce magazine. Là, chers abonnés, vous avez reçu le magazine dédié à le harcèlement, au harcèlement scolaire. Un sujet qui me tenait vraiment à cœur, encore une belle pépite, et d'ailleurs Anne-Françoise me disait qu'elle l'avait entre les mains. Je vais la faire apparaître tout de suite. Bonjour Anne-Françoise, ça va ?
Bonjour Julien, ça va, merci.
Oui, on disait tout à l'heure, tu avais le magazine et tu me disais que tu venais juste de...
Ouais, de il est juste à côté. Il est très beau comme d'habitude et j'ai super hâte de recevoir aussi le prochain sur l'éducation positive qui, je pense, interroge beaucoup de parents en effet aujourd'hui.
Eh oui, on est d'accord. Hein. J'imagine que tu l'as vu aussi de ton côté. Je trouvais que c'était vraiment un sujet très clivant en fait ces derniers mois, alors que ça ne devrait pas l'être.
Oui, je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de parents qui ont du mal à trouver le juste milieu entre peut-être l'éducation qu'ils ont reçue et puis voilà toutes ces nouvelles injonctions qui en sont aussi de bienveillance. Voilà, et c'est pas facile de trouver un juste milieu quand parfois on est dans le tourbillon du quotidien avec les enfants. J'en ai trois, donc je sais ce que c'est.
Tu es bien placé pour savoir.
C'est hyper intéressant.
Je vais te laisser te présenter parce que j'imagine qu'il y a des gens qui ne te connaissent pas. Pour qu'on comprenne qui tu es.
Alors, donc Anne-Françoise de Saint-Albin, moi je suis donc maman de trois enfants, bientôt quatre d'ailleurs, et je suis responsable de la communication et du développement à la Fondation pour l'école, pour laquelle je travaille depuis maintenant un peu plus de 6 ans. J'ai exercé plusieurs postes à la Fondation. J'ai commencé par m'occuper de l'animation du réseau des écoles libres hors contrat, puisque c'est ce dont on s'occupe à la Fondation, en passant par l'organisation d'un salon, le Salon de la Liberté Scolaire, sur lequel on reviendra peut-être tout à l'heure.
Tout à fait.
Et puis, depuis 2 ans, je m'occupe de la communication et du développement.
Ok. Et donc, justement, c'est une bonne transition. Tiens, on va parler du salon auquel nous, on participe. D'ailleurs, on a un stand. C'est pas la première fois. En fait, on peut considérer qu'on est partenaire depuis plusieurs années, que ce soit pour le Congrès Innovation et Éducation ou le salon LIPSCO. Je vais montrer la bannière. Peut-être que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est ce salon.
Oui, alors le salon, c'est un salon grand public annuel qu'on organise depuis 2019, qui est en fait... on va dire le rendez-vous incontournable un peu des acteurs de la liberté scolaire. Alors, acteurs de la liberté scolaire, c'est un peu large. Il y a évidemment dedans les écoles, ce qu'on appelle les écoles hors contrat. Nous, on préfère parler d'écoles libres, ce qui est plus positif, des écoles libres. Mais pas seulement, puisqu'en fait, l'idée qu'on avait en concevant ce salon en 2019, c'était d'en faire un rendez-vous vraiment de plein d'acteurs de l'éducation qui sont quand même attachés à cette liberté scolaire, qui ont envie d'améliorer le système éducatif, qui ont envie de faire bouger un peu les lignes, qui savent pas forcément trop comment s'y prendre au quotidien, et qui a envie de se rencontrer, d'échanger, d'être stimulé par les rencontres entre passionnés d'éducation. Voilà, donc c'est un salon avec beaucoup de conférences, d'animations, des ateliers. Il y a une cinquantaine de stands avec plein d'acteurs d'éducation, des maisons d'édition, des écoles, des startups, voilà, d'outils éducatifs, etc. Et puis il y a effectivement, je dis pour ceux qui seraient un peu curieux justement de ce milieu entre guillemets des écoles libres, il y a un village des écoles avec une quinzaine d'écoles qui sont, on va dire, représentatives de la diversité du paysage éducatif des écoles libres. Voilà, ouais, donc vous êtes chaleureusement invité, pardon, c'est le 6 avril, bien si j'oubliais l'essentiel, le 6 avril à Paris dans le 12e arrondissement. Et donc vous pouvez, voilà, prendre vos places et puis avoir toute la programmation sur le site de la Fondation pour l'école, donc fondationpourl'école.org. Et en effet, Innovation en éducation est partenaire depuis quelques années, on est ravis de ce partenariat. Et d'ailleurs, il y a un atelier qui est organisé en partenariat avec Innovation en éducation, justement sur la prévention du harcèlement, voilà, qui aura lieu, alors je ne sais plus exactement l'horaire, vous pouvez le retrouver sur la programmation, qui aura lieu dans le pôle dédié aux professeurs du primaire, puisque voilà, il y a plusieurs espaces dédiés aux professionnels de l'éducation dans le salon. Oui, donc, tout le monde peut assister, évidemment.
C'est vrai, comme beaucoup de sujets, enfin, le sujet du harcèlement, pour moi, c'est un vrai sujet. C'est chouette que vous l'abordiez. C'est en accès gratuit pour ceux qui veulent venir ?
Alors, c'est 5 euros la place. Voilà, 5 euros qui nous servent un tout petit peu à rentrer dans nos frais. C'est pas si cher payé, puisque pour le prix d'un cappuccino à Paris, voilà, vous allez avoir une super journée avec plein d'animations, plein de rencontres, il y a plein de temps forts. C'est une belle occasion de découvrir ce salon.
Oui, puis une belle occasion, comme nous on le fait avec le congrès Innovation en éducation. Enfin, moi, c'est comme ça que j'allais dire, j'en parle beaucoup de nos événements. C'est une belle occasion, en fait, de rencontrer des gens. En fait, de rencontrer des gens, tu sais, qui viennent un peu partout, qui partagent des valeurs communes. Enfin, je trouve que c'est un vivier de rencontres qui est super intéressant, quoi. Pour moi, c'est limite le plus important, tu sais, au-delà de la programmation. C'est toutes ces personnes qui viennent connectées de la même manière. Il y a plein de choses à imaginer tous ensemble. Je trouve ça à chaque fois magique.
Oui, complètement. Et d'ailleurs, c'est vrai que les participants nous disent régulièrement après chacune des éditions que, en fait, c'était un vrai moment de ressourcement pour eux. Donc ça, pour nous, évidemment, ça nous fait chaud au cœur parce que, notamment, bon, il y a les parents, mais il y a beaucoup de professionnels de l'éducation qui sont parfois un peu seuls, même s'ils travaillent en équipe, qui n'ont pas forcément le temps de s'interroger sur leurs pratiques, d'échanger, etc. Et ils nous disent que c'est un vrai moment de ressourcement, qu'ils ont pu effectivement rencontrer, échanger dans un climat bienveillant, serein. Et donc ça, effectivement, tu as complètement raison, c'est le plus important.
Oui, alors moi, j'y suis pas d'année en année. À chaque fois, c'est ma collègue qui est sur place. Donc, elle me raconte comment ça se passe. Elle me dit qu'elle n'a pas une seconde, tu sais, pour... En fait, elle est tout le temps en train de parler. Tout le temps, il y a du monde, tout le temps. On est en train de discuter. C'est non-stop avec des discussions passionnantes. Enfin, elle a adoré les éditions. Et voilà, je voulais le dire parce que ça a l'air d'être vraiment très chouette. Mais moi, j'y suis jamais allé sur place.
La prochaine.
Yes, c'est ça, ouais. Mais du coup, j'ai l'impression que c'est un peu comme une transition, une suite logique de ce que vous faites avec la Fondation, ce salon.
Oui, tout à fait. Alors, en fait, à la Fondation, on a plusieurs missions. Je ne sais pas, je peux revenir un peu rapidement peut-être,
oui, sur ce qu'on fait,
parce qu'effectivement, je pense qu'il y a peut-être... des personnes qui nous regardent qui ne connaissent pas du tout la Fondation pour l'école. Alors déjà, c'est une fondation qui existe depuis 16 ans. On a été créé en 2008. Et c'est une fondation qui est reconnue d'utilité publique. Voilà, donc c'est un statut un peu à part. Et donc, on a plusieurs missions. La première, c'est vraiment de soutenir et de promouvoir les écoles libres. Donc, c'est un soutien qui s'illustre de différentes façons. Il y a un soutien financier. Là, on étudie les dossiers de demande d'aide financière des écoles, on regarde la qualité, l'urgence du projet de développement, etc. Et puis, on attribue ou non l'aide financière, donc soutien financier. Il y a un soutien juridique. On a une juriste qui va s'occuper de donner des conseils depuis la création jusqu'à la pérennisation de l'établissement. Voilà, parce que les créateurs et les directeurs d'école sont confrontés à tout un tas de démarches administratives, d'obstacles juridiques parfois. Donc, nous, notre mission, c'est de les conseiller également dans la gestion, voilà, un peu opérationnelle de l'établissement, le recrutement, etc. Et soutien aussi à travers la défense un peu institutionnelle, je vais dire, des écoles libres. Donc, voilà, on mène des actions de plaidoyer auprès des institutions, auprès des médias, pour faire connaître, justement, pour démonter parfois un petit peu les préjugés qui existent, et puis pour éviter que les écoles, ces écoles-là soient discriminées, ou en tout cas que les enfants qui sont scolarisés soient discriminés. Donc ça, c'est un premier point de notre action, donc soutien et promotion des écoles libres. On a une deuxième mission qui est une mission de formation. Alors, on organise beaucoup de formations à destination des créateurs d'écoles, des directeurs, des administrateurs et des professeurs, voilà, donc du primaire, du secondaire. On a énormément de formations, un catalogue très riche, à la fois des formations à Paris et puis on fait des formations sur mesure au sein des établissements aussi. Et puis notre troisième mission, et là on va voilà, recoller les morceaux avec le salon, c'est, alors nous on appelle ça faire rayonner la liberté scolaire ou inspirer les acteurs de la liberté scolaire. Et donc ça, c'est le rôle qu'on joue d'un point de vue, vraiment, on veut jouer un rôle en fait sur l'échiquier éducatif en organisant bah, voilà, des événements qui pour participer au débat en fait, public sur l'éducation. Donc, ça va être effectivement l'organisation d'événements comme le Salon de la Liberté Scolaire. On a organisé aussi par le passé des colloques sur des sujets comme le numérique. Tout un tas d'événements. Et le Salon, eh bien, c'est l'occasion pour nous, effectivement, de participer aussi au débat éducatif.
Est-ce que tu sais s'il y a des acteurs, justement, je ne sais pas, par exemple, du ministère de l'Éducation nationale, tu as des institutions qui viennent aussi à l'IPSCO ? Est-ce qu'il y a ce regard un peu transversal sur le salon, ouais.
Oui, alors bon, on n'a pas forcément, il y a plein de gens qui viennent aussi, entre guillemets, incognito, donc on n'a pas nécessairement toutes les infos. Mais je sais que très souvent, moi, je me balade un peu dans les allées du salon, j'essaie de discuter avec les visiteurs. Effectivement, je suis toujours assez surprise, beaucoup de... Alors déjà, pas du tout uniquement des écoles, des acteurs des écoles, enfin voilà, du secteur privé. Il y a beaucoup de profs du public, des inspecteurs d'académie, des directeurs d'écoles publiques. Enfin voilà, donc pas du tout que des acteurs du privé. Et puis, alors des institutionnels... Ça, c'est moi, je trouve ça plus difficile de le savoir. Honnêtement, j'en ai pas vu ouvertement, mais j'imagine qu'en tout cas, ça doit les intéresser. J'espère que ça les intéresse.
Bah oui, j'espère aussi, ouais. Parce que moi, souvent, j'ai l'impression que ça peut me donner, c'est que pour eux, ça serait comme de la concurrence, tu sais, d'avoir des écoles alternatives, alors que c'est pas du tout en fait de la concurrence. Alors je dis bien que c'est une impression, hein. Peut-être que je me trompe, mais est-ce que c'est une impression partagée? Est-ce que toi aussi tu as cette impression?
Alors, je sais pas si j'irai jusqu'à dire ça. En fait, aujourd'hui, les écoles, alors pour donner quelques statistiques, je suis pas très très douée pour retenir les chiffres, mais en gros, on a 100 000 élèves scolarisés dans le hors contrat, donc ça représente 1% du nombre d'élèves total. Donc en fait, c'est vraiment une goutte d'eau dans un océan. Mais là où je te rejoins, c'est que je pense que ça les laisse pas indifférents. Il y en a certains que ça agace, il y en a d'autres que ça inquiète. Peut-être parce que voilà, il y a aussi ces préjugés, il y a un peu la menace séparatiste qui plane, pas du tout de façon légitime d'ailleurs. Hein, parce qu'on pourra revenir sur les... Mais c'est pas vraiment justifié. Donc effectivement, je pense qu'il peut y avoir une certaine défiance. Moi, je trouve ça assez malheureux parce que je pense qu'on a ces écoles libres, justement, de par leur capacité, leur liberté, leur capacité à innover, pardon, je vais finir mes phrases, leur liberté, elles ont beaucoup de choses à apporter au système et qu'elles ont, voilà, elles doivent participer et elles participent, à mon avis, à l'amélioration du système. Donc, je trouve ça un peu dommage qu'il y ait de la défiance. Mais après, je pense que je ne t'apprendrai pas que tout ce qui sort un peu des sentiers battus, ça dérange. Donc voilà, ça dérange parfois de façon positive et puis parfois pas. Mais bon, bah, c'est comme ça.
Ouais, c'est vrai, c'est assez étonnant parce que bah, moi, ça fait, on va dire, une bonne dizaine d'années maintenant que je mets de l'énergie dans l'éducation. Et donc, c'est vrai que j'observe ça. Et bon, il y a plein de questions qui me viennent à l'esprit. Ce que je retiens aussi beaucoup, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a fait un livre. D'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, on a écrit un bouquin qui s'appelle « Après l'école alternative, quel avenir pour mon enfant ?» Parce que le fond de ma question, c'est celui-là, en fait, c'est pour ça qu'on a écrit le bouquin. Beaucoup de parents hésitent à mettre leur enfant dans des écoles alternatives parce qu'ils se demandent de ce qu'ils vont devenir, tu sais, après, plus tard. Notamment, bon, il y a très peu d'établissements quand même, collège et lycée alternatifs. Et donc, ils se disent, mais la transition de « je passe de l'alternatif après une école, on va dire, publique, ils ont peur de ça. Et donc, moi, j'avais rencontré une trentaine de personnes, mais on en a mis 15 dans le bouquin, qui sont passées par des courants alternatifs pour voir, en fait, ce qu'ils sont devenus, tu sais, dans leur vie d'adulte. Et les résultats sont bien évidemment ultra positifs, quoi. Est-ce que toi aussi, tu peux observer ce genre de choses, ce questionnement, en fait, de qu'est-ce qui va devenir
Ouais, alors c'est un peu moins vrai. Alors je voulais juste dire, parce qu'on a eu l'occasion d'en parler un peu avec l'équipe de la Fondation, mais aujourd'hui, il y a sur l'ensemble des écoles en France, hein, tu prends tout confondu, il y a 2,5% des écoles primaires qui sont du hors contrat et il y a 6,5% du secondaire, 6,5%, hein, qui sont hors contrat. Donc c'est pas rien. Donc, il y a de plus en plus de collèges lycées hors contrat. Je disais juste parce que tu disais qu'il y en avait moins. Alors, c'est vrai qu'il y en a. En fait, aujourd'hui, sur la totalité des écoles libres, 48% c'est du secondaire. Donc, en fait, c'est assez partagé finalement. Et ça tend à s'étendre. Voilà, ça tend à être 6,5%, c'est pas rien non plus. Donc, il y en a de plus en plus. Et je pense que cette peur, elle est de moins en moins prégnante. Je pense que les parents, voilà, se lancent plus, tout simplement parce qu'ils voient en général ce qui se passe, hein, c'est qu'ils mettent leurs enfants en primaire, parce que voilà, le primaire, ça fait pas trop peur. On se dit bon, quoi qu'il arrive, je peux remettre facilement mon enfant dans l'école d'à côté. Enfin, ça passe. Donc ils se lancent. Et puis en fait, en général, ils sont très satisfaits. Et d'ailleurs, nous on constate beaucoup de créations, hein, c'est ce que je disais, mais beaucoup de créations de collèges et de lycées dans la continuité d'un établissement primaire qui existe. Donc, ce qui montre bien qu'il y a forcément une demande. Les parents disent bah, « Non, on n'a pas envie en fait, de remettre notre enfant dans le système. On est super content de l'école, donc on veut continuer comme ça. » Et donc, finalement, je pense qu'il y a moins de parents qui ont cette peur-là. Il y a plus de parents qui se lancent. Après, c'est quelque chose qui subsiste encore. Est-ce que c'est lié à la spécificité un petit peu française de l'importance du diplôme? Voilà, de les études supérieures, c'est hyper important. Et c'est vrai, hein, ça l'est aujourd'hui en France, et c'est une des spécificités d'ailleurs de notre pays. Il y a une importance très accrue du diplôme. Et donc, je pense que les parents, et c'est potentiellement légitime, hein, se disent, bah, nous, voilà, notre enfant, on veut surtout qu'il ait une bonne classe prépa, etc. Et s'il va dans leur contrat, ça va être la cata, il s'en sortira après, il ne va pas pouvoir choisir ce qu'il veut. Alors moi, je ne suis pas une spécialiste de Parcoursup, etc. Mais c'est quelque chose qu'on voit moins. Et en général, les élèves qui sortent des lycées hors contrat, ils n'ont pas de problème à trouver leur parcours. D'ailleurs, on parlait des classes prépa, mais il y a beaucoup. On avait fait une petite enquête, alors qui était plus qualitative que quantitative, hein, à la Fondation sur le devenir des lycéens du hors contrat. Et donc, on avait eu pas mal de réponses du directeur de lycée. Et on avait été assez surpris du résultat. Et typiquement, il y avait une partie, j'ai plus le chiffre en tête, mais c'était beaucoup plus important que dans le reste, que dans le secteur public, d'élèves qui intégraient une prépa. Voilà. Mais la prépa, c'est pas pour dire que la prépa, c'est la seule voie, pas du tout. Mais en tout cas, si ça peut en rassurer certains, voilà, les élèves choisissent facilement après.
OK. Il y a d'autres choses aussi qui ressortaient beaucoup, c'était, et je trouve que c'est vrai, en fait, mais peut-être que toi, tu as du coup des chiffres ou une autre réalité, la majorité quand même des écoles alternatives ne sont pas accessibles à tout le monde financièrement.
Ouais, alors, c'est une réalité, parce que en fait, toutes les écoles ont un coût, hein, et d'ailleurs, je tiens à le dire, parce que parfois, on parle de l'école publique, moi, l'école, elle est pas l'école publique gratuite, pardon, l'école, elle est pas gratuite, hein, donc, elle est payée avec le budget de l'État, et in fine, c'est le contribuable qui paye. Donc, effectivement, les écoles hors contrat, elles ne touchent aucune subvention, pas même des subventions locales, hein, c'est interdit, et donc, finalement, elles ont un coût. Alors, effectivement, il y a un souci d'accessibilité. Nous, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'écoles qui font énormément d'efforts. On a plein d'écoles qui proposent des politiques, qui ont des politiques sociales, donc qui vont adapter leurs tarifs en fonction du quotient familial, qui vont proposer des tarifs dégressifs pour des fratries, qui mettent en place des choses, des bourses pour rendre leur école accessible à tous. Nous, à la Fondation pour l'école, on les aide aussi parce que quand on soutient financièrement une école, quand elle a un projet de développement, c'est pour éviter qu'elle augmente ses scolarités à chaque fois qu'elle doit retaper, qu'elle doit refaire un mur, repeindre un mur de classe. Donc ça, évidemment, ça leur permet en tout cas de pas augmenter trop leur scolarité. Après, nous, on milite évidemment à la Fondation pour que ces écoles, elles soient plus accessibles à tous. Il y a différentes solutions qui sont envisagées. Ça peut être effectivement un crédit d'impôt, comme c'est le cas aujourd'hui pour les entreprises de soutien scolaire. Ça pourrait être aussi un chèque éducation. Voilà, l'État donnerait aux parents un chèque qu'ils peuvent décider de dépenser dans une école ou dans du soutien scolaire ou dans, je sais pas, un sport ou de la musique, etc. Voilà, il y a pas mal de choses à imaginer. Ce qui est sûr, c'est que nous, on essaye de proposer des solutions qui sont pas toujours écoutés, donc on travaille, en tout cas, nous, c'est effectivement notre objectif, que ces écoles soient accessibles à tous, parce que pour nous, c'est une évidence qu'il faut que les parents puissent avoir le choix d'une école qui soit adaptée aux besoins de leur enfant, qui corresponde à leurs valeurs familiales aussi, et puis qui permettent voilà, à leurs enfants de faire fructifier leurs talents, de devenir des adultes libres, épanouis, etc., et pour nous, c'est très important que les parents, enfin, c'est même essentiel que les parents puissent avoir le choix d'une alternative.
Je suis bien d'accord, oui, on partage exactement le même point de vue. Il y a autre chose aussi que j'ai constaté, c'est que, mais ça je pense que c'est valable pour toute personne qui se lance à un moment donné dans la création d'une entreprise, donc on peut le dire toute entreprise confondue, mais pour moi, créer une école, en fait, c'est être chef d'entreprise, hein, très clairement. J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui se lancent dans la création parents, des enseignants qu'on en marre du système ou sur lequel ils sont plus raccord et donc ils ont envie de créer une école alternative. C'est à peu près ça, on va dire, ou des parents qui ne trouvent pas de solution pour les enfants, de ce que j'observe. Mais du coup, ce ne sont pas des chefs d'entreprise. Et donc, ils se rendent compte, tu sais, au fur et à mesure de l'ampleur de ce que ça peut représenter, en fait, de gérer et de créer une école alternative. Est-ce que c'est ce que tu observes, toi, de ton côté? Parce que moi, j'ai envie de dire, pour ceux qui ont envie de se lancer à créer une école, bah, quand même... renseignez-vous bien en amont sur vraiment tous les tenants et les aboutissants, parce que tout le monde ne peut pas être porteur de projet, en fait, et de maintenir après l'école dans le temps, surtout.
Oui, alors, je crois que tu as assez bien décrit, en tout cas, les profils des créateurs d'école, effectivement, les parents, les profs qui en ont marre, bon, c'est à peu près ça. Finalement, assez rares sont les profils, mais ça existe quand même, d'entrepreneurs dans l'éducation, voilà, des gens qui se disent, ouais, moi, j'ai un esprit d'entrepreneur et je veux créer une école. Ça existe, hein, il y en a. En fait, alors nous, évidemment, la Fondation pour l'école, on est là pour ça, hein, pour aider les créateurs. Donc, on a des formations, on a j'en parlais tout à l'heure, du conseil juridique, opérationnel. Mais effectivement, on n'est pas sur le terrain tout le temps aux côtés des créateurs d'école. Nous, ce qu'on conseille, c'est de savoir s'entourer. On pense que quelqu'un qui est bien entouré, c'est la clé de la réussite. On n'a pas tous les talents, personne n'a tous les talents. Donc, on peut être hyper créatif, hyper bon en com, mais très, très nul en finance et ne pas savoir gérer des comptes. C'est pas grave. En fait, il faut juste s'entourer de personnes d'une personne qui sait gérer les comptes, puis une autre qui va être hyper bonne en pédagogie, qui a un passé de prof, par exemple, et puis quelqu'un d'autre qui va être très bon en relation, qui n'a pas peur d'aller voir le maire, les institutions. Voilà. Et donc, ça, pour nous, c'est vraiment la clé de la réussite pour créer une école. C'est de pas se lancer dans son projet tout seul parce qu'effectivement, c'est ni très sain, ni pérenne, à mon avis. Donc, en fait, c'est de savoir vraiment voilà, s'entourer d'une équipe, trouver des personnes, des profils qui se complètent. Et comme ça, on peut vraiment avoir toutes les qualités pour mener à bien le projet. Mais c'est pas mission impossible. Hein. Il y en a plus d'une centaine chaque année qui se créent. Donc, il y en a qui y parviennent.
Oui, alors justement, c'était la question que j'allais te poser. Donc, il y aurait plus d'une centaine par an quand même qui se créent. D'accord, ok.
Oui. Nous, en gros, on recense, on a toujours entre 250 et 300 projets dans les tiroirs, enfin, dont on a entendu parler. Ce n'est pas nos projets. Hein. Et puis, il y en a une centaine qui voient le jour chaque année. Donc, sur les 200 qui restent, soit c'est des projets qui voilà, prennent le temps de mûrir un peu plus longtemps, donc qui ne se font pas en une année, qui vont se faire en 2, 3, parfois 4 ou 5 ans, ça dépend. Et puis, il y a aussi des projets bah, qui malheureusement, ne voient pas le jour, mais parfois, c'est pour le mieux, parce que j'ai envie de dire, si c'est pour créer une école et qu'elle ferme l'année d'après, c'est aussi un petit peu dommage, ça laisse pas mal de familles sur le carreau. Donc, le mieux, c'est quand même de réfléchir à son projet, de prendre au moins un an pour, entre voilà, le moment où on a l'idée et puis l'ouverture de l'école à minima. Et voilà, c'est la garantie de succès.
Justement, c'était une autre question qui me venait à l'esprit. Sur 100 écoles qui se créent tous les ans, à ton avis, combien perdurent, je sais pas, au bout de 3 ans, est-ce qu'elles sont toutes encore actives? Ou est-ce qu'il y en a parmi les 100, bah, justement, qui arrêtent leur activité, hein, pour X raisons? Est-ce que ça, vous avez des retours comme ça à la Fondation?
Ouais. Ouais, alors c'est plus facile de recenser des écoles qui ouvrent que des écoles qui ferment. Parce que les écoles qui ferment, elles n'ont pas besoin de nous pour fermer, malheureusement. Donc, c'est un peu plus difficile d'avoir des chiffres de fermeture. Nous, on recense environ une vingtaine de fermetures par an. Donc, tu vois, ça fait entre 100 et 120 écoles qui ouvrent et puis une vingtaine de fermetures. Et effectivement, il y a pas mal de fermetures. Enfin, pas mal. C'est pas une statistique très précise de dire pas mal, mais je pourrais pas donner de chiffres. Mais c'est vrai qu'il y a dans les fermetures, voilà, je vais le dire comme ça plutôt, dans les fermetures d'écoles, il y en a, je pense, un quart qui concerne des écoles qui sont ouvertes depuis moins de 3 ans.
Okay.
C'est un peu la période phare, c'est-à-dire si l'école réussit à passer 3 années, et à mon avis, je crois que c'est pareil, hein, moi je ne suis pas entrepreneur, mais je crois que c'est à peu près pareil dans les entreprises.
Oui, on dit 3
ans. Une phase où au départ, ouais, c'est ça. En fait, pour les écoles, vraiment, au bout de 3 ans, en général, elles arrivent à perdurer. Après, il peut y avoir d'autres soucis plus tard, hein, ça peut arriver, mais en général, au bout de 3 ans, elles sont un peu saines et sauves, tout simplement parce qu'au départ, il y a souvent pas assez d'élèves pour parvenir à un équilibre financier. Donc, en fait, elles doivent tenir bon le temps que l'école se fasse un petit peu connaître. Et puis après, voilà, elles arrivent à un bon nombre d'élèves pour assurer un équilibre financier. Et après, elles sont sur les rails. Et c'est pas un long fleuve tranquille pour autant comme dans la vie d'une entreprise. Mais en tout cas, c'est plus facile de faire perdurer la voie.
Ouais, c'est ça. Alors après, tu disais que il y avait une quinzaine d'écoles, c'est ça, au salon de l'IPSCO?
Oui, c'est ça. Il y en a 15 écoles. Après, il y en a d'autres qui viennent, voilà, qui n'ont pas de stand, mais en tout cas, il y en a 15 qui sont rassemblés dans ce qu'on appelle le village des écoles, donc voilà, qui ont des petits stands et qui seront présents toute la journée.
Ok. Et tu disais en fait qu'ils représentent une pédagogie un peu différente, quoi, grosso modo. C'est pas que du Montessori, ouais, par exemple.
Non. Voilà. Alors, je crois qu'il y a une école Montessori de mémoire. Il y a plusieurs écoles à pédagogie plutôt classique, puisque c'est une réalité. Hein, il y a 30% des écoles hors contrat qui utilisent des pédagogies classiques. Il y a une école pour les enfants qui ont des troubles 10. Il y a une école pour qui est en pleine nature en Alsace. Voilà. Je suis ravie d'accueillir aussi. C'est la deuxième année qu'il y a, donc je suis très contente. Il y a une école qui vient d'un écolieu, voilà, où il y a aussi une chèvrerie, une menuiserie, donc des écoles vraiment enracinées localement. Il y a une école avec des arts et spectacles, voilà, centrée sur la musique. Enfin voilà, il y a pas mal de... Voilà, il y a un peu de tout.
Oui, là, justement, c'était le fond de ma question, c'est que je trouve que c'est pas évident, tu sais, de... Mais peut-être que vous l'avez fait avec la Fondation, de recenser le nombre de pédagogies et donc du coup d'écoles, tu sais, différentes. Moi, les plus grands courants qui me viennent à l'esprit, c'est Montessori, Steiner, Freinet, Reggio, Summerhill, tu vois, puis il doit en avoir d'autres que j'oublie. Tu parlais aussi faire l'école dehors, l'école dans la nature, etc. Mais c'est pas évident, je trouve, de recenser tous ces... toi, tu le sais, toutes ces pédagogies?
Alors... Ouais, alors nous, en fait, on a essayé effectivement de faire des statistiques parce que forcément, quand on répond aux journalistes, ils veulent des chiffres. Donc, on a recensé tout ça. Même pour nous, c'était intéressant. Donc, en gros, hein, très rapidement, effectivement, il y a 30% des écoles qui utilisent des pédagogies hyper classiques. Voilà, donc, je veux dire, des méthodes un peu éprouvées. Il y a 20% environ d'écoles Montessori. Donc, Montessori est vraiment pure Montessori. Qui ne mélangent pas, qui ne font pas de mélange avec d'autres pédagogies. Il y a environ 4%, entre 4 et 5% d'écoles qui sont adaptées, donc vraiment plutôt pour, qui sont spécialisées soit dans les troubles 10 ou des écoles pour les enfants HPI ou pour qui accueillent des enfants qui ont des handicaps. Hein. Voilà, donc ça, c'est vraiment des écoles adaptées. Mais après, nous, ce qu'on constate depuis plusieurs années, c'est qu'il y a entre 20 et 25% d'écoles qui en fait ne se revendiquent pas d'une pédagogie particulière, qui essayent vraiment, en fait, qui mélangent, qui prennent un petit peu le meilleur de chaque pédagogie et qui font un petit peu un mélange pour arriver à leur propre pédagogie et surtout qui veulent pas forcément étrangers dans une case, qui souhaitent avant tout s'adapter aux besoins et aux spécificités des enfants qu'elles accueillent. Et ça, c'est vraiment le, enfin, ça a une tendance qui s'accroît depuis quelques années. Et ça, finalement, ben, on peut pas les ranger dans des cases et c'est très bien à mon avis, parce que elles s'adaptent en fait, et c'est finalement ce qui est attendu aussi, j'imagine, par les parents, c'est qu'on puisse s'adapter aux besoins des enfants et qu'il y a des enfants qui vont plus réussir avec un plan de travail freiné et puis d'autres avec de l'autonomie façon Montessori, etc. Donc voilà, qui mélange plusieurs pédagogies.
Oui, c'est ce que je pense aussi. Alors, moi, je ne sais pas si tu le sais, mais moi, j'ai toujours ce projet, en fait, de créer une école dite alternative, hein, qui s'appelle l'école de la vie, et qui reprend, en fait, ça. C'est mon idée, c'est de s'inspirer de tout ce qu'il y a de très bien, en fait, dans tous les courants. Parce que, pour ma part, c'est ce qui me semble de plus logique. Je voudrais revenir aussi sur la création d'école, parce que tu vois, ça fait 10 ans maintenant que je parle de la création de mon école, elle n'existe toujours pas. Et donc, il y a des raisons. Donc, il y a des raisons intuitives, parce que je sens que, intuitivement, c'est pas encore le bon moment pour moi de mettre de l'énergie. Mais je crois qu'il y a des raisons aussi, si je cherche bien, très pragmatiques. C'est que le sentiment que j'ai, et pourtant, je mets pas de l'énergie dans cette direction pour comprendre un peu plus, mais j'ai le sentiment que ça devient de plus en plus compliqué en fait de créer une école, qu'il faut s'armer de patience, que c'est beaucoup de temps et beaucoup d'énergie, un peu comme si c'était un projet de vie en fait de se lancer dans la création. Peut-être ce serait intéressant que tu nous rappelles aussi les tenants et les aboutissants. C'est pas un long fleuve tranquille quand même de créer une école, ou je me trompe?
Non, alors ce qui est vrai, c'est que c'est pas un fleuve tranquille. Ça, c'est sûr, c'est une aventure entrepreneuriale. De la même manière, j'aime bien quand même faire le parallèle entre la création d'entreprise et la création d'école, parce que je pense qu'il peut y avoir des galères et des joies aussi assez similaires. Ouais. Je pense que les difficultés aujourd'hui, elles portent sur deux choses. Alors, il y a le fait de trouver des locaux. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on nous remonte le plus souvent. Le fait de trouver des locaux adaptés, ça, c'est sûr, c'est compliqué parce qu'il y a pas mal de normes. Enfin, il y a tout un tas de choses. Il faut être accepté sur la commune. Donc, il faut que le maire soit plutôt OK, plutôt accueillant. Ouais. Voilà, donc, ça, c'est vrai que c'est une préoccupation pour les créateurs. Et ça arrive que des projets soient retardés parce qu'il n'y a pas de locaux. Ça, c'est la première grosse difficulté. La deuxième difficulté, c'est la difficulté à recruter un directeur. Difficulté, mais pas mission impossible, puisque depuis la loi Gatel de 2018, on demande aux directeurs d'école hors contrat d'avoir 5 ans d'expérience dans l'enseignement. Et ça, c'était pas le cas avant. Donc, c'était plus facile de trouver quelqu'un. Peut-être, ça pouvait être un papa ou une maman qui avait une expérience dans le management, ou voilà, un chef d'entreprise qui acceptait, voilà, de se reconvertir. Enfin, c'était plus facile, effectivement, de trouver un directeur avant. Aujourd'hui, il faut trouver quelqu'un qui a un profil finalement d'enseignant, alors que parfois les enseignants, ils n'ont pas du tout envie de diriger parce que justement, ils ont envie d'enseigner. Donc, ce n'est pas nécessairement évident. Ceci dit, ça se trouve. Hein. D'ailleurs, nous, à la Fondation, on a lancé cette année une formation pour les futurs directeurs, justement voilà, pour essayer de stimuler un peu et d'inciter les professeurs à se poser la question aussi de peut-être un jour diriger une école. Et c'est une formation qui était pleine, donc ça veut dire qu'il y a des directeurs en devenir, c'est possible. Mais voilà, c'est les deux grosses difficultés. Après, c'est vrai que c'est d'une certaine manière un acte militant aujourd'hui de créer une école parce que il y a forcément, c'est pas de la concurrence, on l'a dit, mais en revanche, on fait quelque chose à côté du système. Et ça, forcément, c'est un peu un acte militant, c'est vrai. Donc, il faut beaucoup de motivation, il faut s'armer de patience parce qu'il y a des galères. Et puis après aujourd'hui, voilà, je pense que les créateurs ont quand même la chance de pouvoir être accompagnés, d'avoir beaucoup d'outils à leur disposition, y compris les réseaux sociaux. On crache beaucoup dessus, mais ils ont quand même cette utilité, voilà, de pouvoir permettre d'échanger des expériences, de croiser des regards. Et donc ça, c'est ce qui rend aussi, je pense, l'expérience de création peut-être. Plus facile, même si par ailleurs, bon voilà, il y a des tracasseries administratives et des lois qui font que c'est plus difficile peut-être qu'avant.
Oui, c'est vrai. Oui, ça a changé à ce niveau-là aussi, bien sûr. Ouais, moi, le jour où j'ai eu cette idée, donc une dizaine d'années en arrière, et maintenant la 2024, c'est sûr que au niveau des lois et au niveau de la facilité, j'allais dire, de créer une école, ça a quand même bien changé. Il y a 10 ans en arrière, j'ai le sentiment que c'était beaucoup plus simple en fait de se lancer et de créer une école.
Bah, oui, c'est vrai. Enfin, on peut pas, pas se voiler la face. Et d'ailleurs, j'en parlais avec le directeur de la fondation qui a créé un établissement il y a 30 ans. Et on en parlait il y a quelques jours. Et il me disait qu'effectivement, lui, à son époque, il y a 30 ans, pour créer une école, il fallait juste envoyer une lettre au maire en disant « Bonjour, je vous informe que je vais créer mon école. Allez, ciao. » Et c'est sûr qu'aujourd'hui, mais j'allais dire, c'est un petit peu pareil dans tous les pans de la société. On a beaucoup de normes, beaucoup de process, beaucoup de procédures, beaucoup de comptes rendus. Voilà, c'est finalement c'est un petit peu aussi le reflet de la société dans laquelle on vit aujourd'hui.
Tout à fait. Oui, ça m'étonne pas plus que ça. Hein. Je suis vraiment pas étonné. Et dans la continuité de ça, toujours en fait autour de la création d'écoles, ce que je remarque aussi, c'est qu'il y a de plus en plus, on va dire, d'éco-villages, de lieux-dits, tu sais, en fait, c'est le projet. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fait, c'est plus, il y a plus une école. En fait, c'est carrément, en fait, ça représente plein d'autres choses. C'est, je sais pas, oui, peut-être que le meilleur mot, c'est éco-village, mais je trouve que c'est réducteur. Tu vois le fond de ce que je veux dire? C'est...
Oui, un lieu de vie. Alors oui, il y en a qui appellent ça des tiers-lieux aussi.
Oui, voilà, c'est ça, exactement. Mm. Ouais. Et je trouve, en fait, l'idée assez sympa. Moi, je ne me lancerai pas là-dedans parce que je trouve que c'est encore plus compliqué si les gens restent dormir sur place. Tu vois, ça fait comme une espèce de communauté, quoi, on va dire. Mm. Et moi, ce que je trouve de plus compliqué dans ce type de projet, c'est l'humain. Ce n'est pas tant le côté administratif... je sais pas, les normes qu'il faudra avoir, tu sais, pour l'établissement, etc. Moi, ce que j'observe, peut-être que c'est le cas aussi de votre côté, c'est vraiment l'humain, en fait, qui me semble vraiment compliqué, tu sais, sur la durée. C'est-à-dire qu'au début, bah oui, on est tous motivés et partagés par la même ambition, toute cette équipe, tu vois, qui va se lancer, qui va créer l'école. Et en fait, on s'aperçoit. Alors, quand je dis on, c'est que j'ai eu beaucoup de discussions avec des gens qui ont créé des écoles, qui ont créé des tiers-lieux, qui ont créé, voilà, des lieux d'accueil, etc. Et à chaque fois, franchement, systématiquement, dans du long terme, hein, quand ça commence à devenir un peu problématique, quoi, on va dire, c'est souvent rattaché à l'humain. Est-ce que c'est aussi quelque chose que tu observes, toi?
Oui, je pense que pour le coup, ça, on parlait de la création d'une école qui est une aventure entrepreneuriale, je veux dire, qui n'est pas forcément le projet d'une vie, qui peut être un projet d'une phase de vie. En revanche, ça, oui, partir habiter tous en communauté, c'est effectivement vraiment un projet de vie. Après, il y a deux choses, parce que tu parles là, ce que tu évoques avec le fait de rester dormir sur place, donc vraiment un aspect très communautaire. Effectivement, ça, c'est les éco-villages. Ouais. Finalement, moi, j'en ai pas visité. Je connais, je sais que ça existe, j'en ai déjà entendu parler, mais finalement, je connais pas très bien. En revanche, il y a autre chose qui, là, nécessite pas une vie en communauté, mais c'est plutôt, voilà, les tiers-lieux. Pour moi, je fais quand même la différence entre les deux, parce que entre les éco-villages, c'est vraiment la vie communautaire, et puis les tiers-lieux, qui sont plutôt des lieux où à la fois il va y avoir une école, mais aussi, pourquoi pas, une maison de retraite. Bon, évidemment, une maison de retraite, les gens habitent sur place, mais tu vois, l'exemple que j'ai en tête de l'école qui sera présente au salon, qui s'appelle l'école Montessori Élise, l'éco-lieu s'appelle Ulteria, c'est dans Lyon, je crois.
Okay.
Et alors, eux, en fait, ils ont fait, voilà, c'est parti justement de l'idée d'un entrepreneur qui avait sa menuiserie à un endroit et qui trouvait qu'en fait, ça manquait finalement d'un lien entre, si tu veux, on essaye toujours d'équilibrer vie pro, vie perso. Donc, ils disaient, moi, j'ai envie que mes salariés, ils se sentent bien, qu'ils puissent avoir à côté, finalement, une école pour leurs enfants, puis peut-être une crèche. Et puis, ils ont créé la chèvrerie parce que tout était très, voilà, une espèce d'économie circulaire aussi. Et ça, si tu veux, ça nécessite pas d'habiter en communauté. C'est simplement que là, effectivement, c'est plus un projet de vie. Ça nécessite d'être en accord quand même avec les valeurs globales de l'environnement, du tiers-lieu. Mais ça me semble quand même peut-être un peu moins contraignant qu'habiter en communauté.
Oui, je pense. Ouais. Oui, parce qu'une fois de plus, c'est l'humain en fait qui fait tout capoter au bout d'un moment donné. Très compliqué, ouais, en fait, de rester, tu sais, tout le temps ancré, d'être bien aligné entre ce que tu dis, ce que tu fais, ce que tu penses. Ça a l'air d'être sur du. Ouais.
Oui, ça c'est sûr, mais finalement, j'ai envie de dire, c'est pareil pour, enfin, même les écoles qui, voilà, où il n'y a pas cet aspect communautaire, même une école, j'allais dire classique. L'humain, c'est ce qui pose problème par essence, mais parce que c'est aussi ce qui fait la beauté voilà, de la chose. Mais la difficulté, c'est effectivement de gérer les susceptibilités, les égos, les attentes, les idéaux aussi de chacun. Et nous, on voit dans les fermetures, là, puisqu'on y revient, les fermetures d'école, il peut y avoir l'aspect financier, voilà, un coup dur financier, ça arrive, 10 familles qui partent en même temps, bon, bah, c'est, ouais. Ça, c'est terrible pour l'école. Mais en fait, très souvent, ce n'est pas ce qui se passe. Très souvent, c'est des soucis humains, notamment de gouvernance,
mais oui.
Qui viennent à bout de l'école. Et en fait, et voilà, il y a des problèmes entre, je ne sais pas, le président du conseil d'administration et le directeur. Les rôles ne sont pas bien définis, n'ont pas été bien définis au départ dans les statuts de l'asso, etc. Ça crée des tensions. Le directeur part, on n'arrive plus à recruter un directeur. Enfin, tu vois, l'humain, ouais. Effectivement, de toute façon, c'est au cœur. Et d'autant plus quand on crée une école, l'humain, il est évidemment au cœur du projet. Et donc après, il faut faire avec. Parfois, bon, ben, ça fait des étincelles.
Tu disais que la fondation, c'est 2018, hein, date de création, 2008.
Ouais, ça fait 16 ans.
Donc depuis, ouais, ça fait quand même un bail, hein, j'ai envie de dire. Est-ce que tu as l'impression que, je sais pas, il y a plus d'écoles qui se créent en Bretagne, plus d'écoles qui se créent, je sais pas, en PACA, en Occitanie, est-ce que, où c'est vraiment bien éclaté? Est-ce qu'il y a vraiment, où il y a des coins, tu sais, où il y en a plus?
Ouais, alors il y a des coins où il y en a plus, mais sans surprise, ça va être région parisienne et ouais. Puis tout ce qui est sud-est.
Okay.
Ouais, donc, PACA. Donc toute la côte, ouais, PACA, exactement. Okay. Donc Paris, PACA, Lyon, un peu aussi évidemment. Bon, ça c'est les okay. Grosses métropoles, c'est normal.
Pas tant Bordeaux, pas tant l'Aquitaine.
Si aussi, mais c'est un peu moins flagrant que PACA et Lyon, ouais.
Okay.
Mais il y en a aussi pas mal en Aquitaine, enfin voilà, dans les zones de grandes villes. Okay. En revanche, c'est sûr qu'il y a, bon moi j'étais pas là en 2008, mais en observant un petit peu les statistiques, effectivement, ce qu'on constate, c'est que en 2008, il y avait beaucoup de, ça se créait vraiment à côté des grandes villes. Aujourd'hui, il y a des écoles hors contrat qui se créent partout en France, y compris dans des zones rurales voilà, qui peuvent sembler un peu désertiques. Et c'est souvent des toutes petites écoles, voilà, avec 15 ouais. élèves. Enfin, parfois, d'ailleurs, qui ouvrent là où l'école publique a fermé, parce qu'il y a des regroupements de classes dans des villages, des regroupements de communes. C'est ça, c'est vrai qu'on observe que le territoire aujourd'hui est vraiment, voilà, il y a un maillage territorial qui est plus resserré qu'il y a une dizaine d'années, ça c'est certain.
Ah ouais, ok, ah ouais, c'est intéressant. Et est-ce que tu as l'impression que le devenir ou je sais pas, le futur des écoles alternatives aura plutôt tendance à être tout le temps exponentiel, comme tu avais l'air de le dire, tu sais, sans école qui se crée tous les ans, ou est-ce que, donc là, on extrapole, hein, est-ce que tu penses qu'à un moment donné, l'école publique va comprendre, en fait, tout ce qui est intéressant à apprendre dans les écoles alternatives, et va l'intégrer, tu sais, progressivement dans son système, et que donc, du coup, bah, au fur et à mesure, ces écoles-là vont disparaître, parce que ça deviendra progressivement peut-être la norme.
Alors, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, en termes de croissance des écoles, on a atteint un peu un rythme de croisière quand même, parce qu'on a eu une croissance vraiment exponentielle pendant quelques années, justement. Donc là, c'était comme ça, et aujourd'hui, ça fait comme ça. Voilà.
D'accord.
Ça augmente. En gros, on est sur un rythme. Non, mais ce que je veux dire, c'est que il y a un coup, moi, quand je suis arrivée à la fondation, l'année d'avant, il y avait eu 70 écoles créées. L'année d'après, il y en a eu 90. Après, c'était 120. Après, ça a été 150. Enfin voilà, ça a fait ça pendant quelques années. Et aujourd'hui, en gros, c'est entre 120 et 130 tous les ans. Donc, on est plutôt sur un okay. rythme de croisière et de croissance assez stable. Moi, j'aimerais rêver, comme beaucoup de monde, je pense que l'école publique puisse prendre tout ce qu'il y a de bon à prendre et qu'on puisse tous ensemble avoir une école publique, gratuite, qui remplit son rôle d'ascenseur social, qui instruise les enfants tout en leur permettant un plein épanouissement. Je pense qu'on n'en est quand même pas encore là et je ne sais pas si on le verra de notre vivant. Okay. J'espère. C'est un peu désespérant ce que je dis, mais en fait, on parle un peu du mammouth d'éducation nationale. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je pense que tout le monde est assez conscient finalement que voilà, on a un système éducatif qui est assez défaillant, dans lequel il y a beaucoup de belles choses aussi, hein, parce que je ne voudrais pas non plus dévaloriser les personnes incroyables qui travaillent pour l'éducation nationale. Je pense à plein de profs qui sont hyper motivés, qui donneraient tout pour leurs élèves. Néanmoins, il y a quand même des failles dans le système qui font que il va être difficile à réformer en 5 ans, en 10 ans ou même en 15 ans, à mon avis. Donc, je pense qu'on n'est pas prêt encore de voir s'arrêter la croissance des écoles libres par contrat. C'est difficile de faire des pronostics, mais moi, je pense qu'on va, ça, voilà, le nombre va continuer à augmenter. Et j'espère que d'ici quelques années, plutôt le gouvernement se dira, bah, tiens, en fait, c'est un tel raz-de-marée, pardon, que maintenant, on ne peut plus se défier à ce moment-là, on ne peut plus ignorer non plus, faire semblant que ça n'existe pas, on ne peut plus condamner les parents qui mettent leurs enfants dans ces écoles-là parce que, en fait, ils ont peut-être leurs raisons et peut-être que leurs raisons, elles sont légitimes. Et donc, en fait, on va plutôt valoriser justement ces écoles-là et faire en sorte qu'elles puissent exister, favoriser leur création là où il y a besoin d'écoles et faire en sorte peut-être d'autoriser une partie, au moins en partie, leur financement. Voilà. Et je pense que c'est ce qui se passera. J'ai plutôt tendance à dire que le gouvernement se rendra compte de tout le bien qu'elles peuvent apporter au système et qu'il le prendra en compte, plutôt que de me dire que en fait, voilà, tout le système va être changé et qu'il n'y aura plus besoin de ces écoles. Mmh. Je l'espère, mais ça, c'est pas tout de suite, je pense.
Ok, moi je parle d'une génération, je me dis peut-être en une génération, on pourra changer les choses. Mais ça voudrait dire aussi peut-être qu'il faudra amener un peu de mesure et d'équilibre, mais tu vas nous donner ton point de vue, parce que ça pourrait laisser sous-entendre notre discours que la solution, c'est les écoles alternatives. Or, moi, dans mon fort intérieur, et je le dis d'ailleurs dans toutes mes interviews, ce n'est pas la solution, les écoles alternatives. Parce que tu parlais de faille, tu sais, du système, de l'éducation nationale. Il faudrait peut-être souligner aussi quand même que, bah oui, il peut y avoir des failles aussi quand même dans les écoles alternatives.
Mmh. Oui, c'est sûr. En fait, si tu veux, les écoles alternatives, elles se créent parce que il y a des choses qui sont pas satisfaisantes du point de vue des parents dans le système. Parce que j'allais dire, mettre ses enfants dans une école hors contrat, on en parlait tout à l'heure, ça coûte quand même de l'argent. Il y a des sacrifices, parfois, voilà, faut faire le panier repas parce qu'il n'y a pas de cantine. Enfin bon, je passe les détails, mais il y a plein de petites petits sacrifices et parfois des grands sacrifices. Hein. Il y a des familles aussi qui ont pas beaucoup d'argent, mais pour lesquelles c'est prioritaire, donc. Qui s'en donnent les moyens. Du coup, je ne sais plus ce que je veux dire. Oui, ce que je veux dire, c'est que ces écoles-là, elles se créent parce qu'il y a un manquement dans le système, une frustration, une insatisfaction, bref, ça c'est une certitude. Maintenant, effectivement, les écoles en contrat, ce n'est pas la solution. Pour moi, c'est une alternative qu'il est important de laisser aux parents tant que le système éducatif n'est pas parfait. Est-ce qu'il le sera un jour? J'en suis pas certaine. Mais en tout cas, pour l'instant, on ne peut pas non plus se dire, j'allais dire un peu par principe, bah non, tant pis, l'école publique à tout prix, etc. En tout cas, moi qui suis maman, ce n'est pas mon point de vue et je pense qu'il est partagé par beaucoup de parents. On n'a pas envie que nos enfants ils restent sur le côté du chemin parce qu'ils sont dans une école qui ne leur convient pas. Je ne souhaite à personne. Donc, ce n'est évidemment pas la solution. Mais c'est une des solutions. Et aujourd'hui, il n'y en a pas tant que ça, en fait, pour les parents, de solutions alternatives.
Mais ouais,
c'est pour ça qu'il faut préserver cette solution.
Je suis entièrement d'accord avec toi parce que c'est un discours que j'entends vraiment souvent, tu sais, de la part des parents qui sont vraiment désemparés, en fait. C'est-à-dire, en fait, ils constatent que leurs enfants ne sont pas du tout épanouis dans le système public. En tout cas, l'école dans laquelle ils se trouvent, ok. Eux, ils ont plutôt une vision, justement, qu'ils aimeraient être très différente en termes d'application. Et ils se sentent vraiment démunis, c'est-à-dire que, ils trouvent pas d'autre solution que, potentiellement, oui, une école alternative. Et puis, pour certains, comme on le disait tout à l'heure, ils ont pas tous la possibilité financière de faire ça. Et donc, du coup, ils sont complètement désemparés. C'est-à-dire qu'ils constatent au fur et à mesure, tu sais, les dégâts, on va dire, que ça peut avoir sur leur propre enfant, parce que, bien évidemment, ce n'est pas tous les enfants, hein, c'est certains enfants. Et ça, c'est vrai que moi, je ne suis pas parent, mais je me mets à leur place. Je me dis que ça va être vraiment désemparant. Et d'ailleurs, pour aller un peu plus loin, si je n'ai pas d'enfant, c'est entre autres parmi une flopée de raisons, hein, mais par rapport justement à notre système éducatif. Parce que je trouve que c'est si à un moment donné, pour X raisons, tu n'as pas le choix et que tu es obligé de laisser ton enfant dans une école où tu vois en fait que Louis, il n'est pas épanoui et que ça ne se passe pas comme il le faut, mais tu sais que potentiellement, il y a peut-être une école différente qui pourrait lui faire du bien, mais que tu ne peux pas le faire. Waouh, mais quelle frustration, quoi. Ça doit être vraiment frustrant.
Bah ouais, c'est une frustration. C'est pour ça que nous, on est aussi... On essaye de faire en sorte à la Fondation que ces écoles, non seulement elles puissent être accessibles à tous, mais qu'il puisse y en avoir le plus possible pour que ce ne soit pas non plus une raison de distance géographique, et puis que les parents puissent avoir le plus de choix possible. Et puis par ailleurs, nous, ce qu'on fait aussi en termes de formation, on a aussi envie que ça profite au reste du système, puisqu'en attendant, comme je le disais, il y a plein de profs super motivés dans le système public ou privé, etc. Et ces personnes-là, elles ont aussi besoin d'être formées, d'être accompagnées. Et donc, nous, on essaye aussi de faire pencher la balance aussi de ce côté-là.
Ouais. Donc, ça fait 16 ans. En 16 ans, tu as une idée du nombre d'écoles que vous avez accompagnées ?
Oh, non. Ouais, ok, mais je pense que c'est facile. On avait recensé une fois qu'on avait 50% des écoles qui s'étaient créées, qui avaient fait appel à nous d'une manière ou d'une autre en suivant une de nos formations ou en sollicitant un conseil. Okay. Donc, alors, le calcul mental, c'est pas forcément sur Excel, mais du coup, s'il y a environ 100 écoles par an qui se créent, il y en a au moins 50 qui font appel à la Fondation, ça fait 10 ans, tu vois, je pense qu'on doit bien être à bien 5000 écoles.
Ah oui, je pense. Ouais, c'est énorme. C'est énorme. Et vous faites un suivi? Vous les suivez après dans le temps?
Alors, en général, les créateurs qu'on a accompagnés reviennent pour des formations de directeurs, par exemple, ou nous envoient leurs profs se former après. On les accompagne aussi dans les formations sur mesure au sein des établissements. Donc, c'est vraiment pas mal via la formation qu'on les accompagne. Et puis, ça peut être aussi des conseils parce qu'ils ont toujours besoin de conseils juridiques ou opérationnels et de soutien financier éventuellement. Donc, ils nous font des dossiers de demande d'aide financière.
C'est clair. Est-ce que tu travailles avec, en réseautage, on va dire, avec d'autres organismes? Quand tu parles de ça, ça me fait penser que tu dois les connaître, créersonécole.com. Vous travaillez ensemble ou chacun, en fait, fait ses trucs de son côté?
Alors, on ne travaille pas spécialement ensemble, mais effectivement, on sait qu'ils existent, que leurs formations sont de qualité. Donc, c'est très bien qu'il y a plusieurs organismes aujourd'hui pour gérer justement le nombre croissant d'écoles qui existent en France.
Ouais, c'est ça. Ouais. OK. Et donc, vous vivez quand même essentiellement de subventions, j'imagine?
Alors, nous, on n'a pas du tout de subventions. Hein. On est la Fondation, on ne vit exclusivement que de dons. Ah, voilà, dons de particuliers, dons d'entreprises. Donc on fait des campagnes de levée de fonds comme les associations et c'est notre seule source de revenus.
Ok, bon, bah, c'est génial, ça fait 16 ans que
Avec les formations quand même, voilà, parce que les formations, les formations évidemment sont payantes, sont quasiment en intégralité prises en charge par les organismes de formation, mais ils sont quand même une source de revenus pour nous. Pour payer nos formateurs et puis faire tourner notre institut de formation.
Oui. Oui, puis c'est un cercle vertueux, c'est-à-dire que vous avez des dons, mais en même temps, vous aidez des écoles, donc c'est un cercle vertueux. Quoi.
Oui, en fait, 95% de ce qu'on reçoit, c'est réaffecté aux écoles, soit par la formation, soit par le soutien financier, soit par le conseil juridique. Donc en fait, c'est quand même le gros de notre action, c'est quand même le soutien aux écoles.
Ah, c'est génial. Je vois que le temps file. Donc, si on veut vous retrouver, vous faire un don, par exemple, se former auprès de vous, on tape Fondation pour l'école dans un moteur de recherche, j'imagine.
Oui, c'est ça. Il y a un seul site, donc fondationpourl'école.org. Et après, on a aussi un autre site internet qui s'appelle école-libre.fr, au pluriel, école-libre.fr, qui est un annuaire qui recense toutes les écoles. Voilà, ça peut être utile aux parents. Carrément. Okay. Et j'en profite parce que je ne l'ai pas dit, Julien, mais on vient de sortir un guide là, qu'on a reçu il y a 2 jours à la Fondation. Qui est justement, qui s'appelle « Je crée mon école, outils et conseils pour réussir ». Et qui sera vendu au salon et puis voilà, qu'on mettra en vente sur le site très prochainement. Il vient d'être édité, donc on est super contents. Et
bravo, bravo.
Je l'enverrai pour ton école.
Ah oui, je veux bien. Et on le trouve où?
Alors, c'est aux éditions Faber. Mais je pense qu'il n'est pas encore en vente sur leur site. C'est vraiment tout récent. Donc,
d'accord. Okay. Mais donc après, on le trouvera, j'imagine, en librairie, en fait, c'est ça?
Oui, librairie sur le site des éditions Faber et on le vendra aussi sur le site de la Fondation.
D'accord, ok. Super. Merci beaucoup, Anne-Françoise. C'était très intéressant. Bien. Avec joie. Plein de bonnes choses pour la suite. Là, le salon arrive bientôt. On le rappelle, c'est le 6 avril.
C'est ça, 6 avril, dans le 12e, à Paris.
C'est ça, c'est toute la journée, de 9h à 18h. C'est l'espace Charenton, dans le 12e. C'est le salon de la liberté scolaire. Il s'appelle l'IPSCO et c'est par la Fondation pour l'école. Ouais. Écoute, je te souhaite une belle journée.
Merci à toi aussi et puis à tout le monde.
Oui, à tout bientôt. Ciao, ciao.
À bientôt.
Et voilà, les amis, c'était Anne-Françoise de Saint-Albin. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Toujours intéressant, bah, vous l'avez compris, moi, c'est un sujet qui m'intéresse, les écoles alternatives. Je vous rappelle que du coup, oui, j'ai écrit un livre là-dessus où j'ai interviewé une quinzaine de personnes, enfin une trentaine, on en a mis 15 dans le livre. Hein, ça s'appelle « Après l'école alternative ». Quel avenir pour mon enfant? Je regarde si j'ai l'affiche, mais je suis assis, ah, ben je l'ai, ouais. Voilà le livre qui est sorti il y a 2 ans maintenant et que vous trouvez assez facilement. Vous allez dans un moteur de recherche, vous tapez après l'école alternative, quel avenir pour mon enfant, et vous tomberez sur le livre et la possibilité de l'acheter. Et donc oui, il y a tellement de choses à dire autour de ça. Comme je le disais avec Anne-Françoise, les choses évoluent vraiment de manière assez significative hein, quand même ces 10 dernières années. Et donc c'est toujours possible bien évidemment de créer une école, et vous l'avez bien compris, j'aime bien le rappeler parce que ce serait trop dommage de créer une école pour qu'elle s'arrête au bout de 3 ans. Réfléchissez bien, vous vous lancez, il faut avoir des épaules, il faut être bien entouré, avoir les bonnes personnes pour se répartir les rôles et pouvoir faire du mieux qu'on peut pour accueillir tout ce petit monde, j'allais dire. Je vous laisse avec 2 choses. L'affiche du dernier magazine Innovation en éducation, qui va sortir là au mois de mai. Donc, vous pouvez vous le procurer. Vous allez sur le site Innovation en éducation, le mag. Pareil, moteur de recherche, vous tapez magazine Innovation en éducation, vous tomberez sur le site. Vous avez jusqu'au 27 avril pour vous le procurer. On a fait une petite vidéo qui vous parle du magazine. Je vais vous laisser avec ça. Et nous, on se retrouve demain. Demain, on parlera couple et amour et comment avoir les clés d'une relation amoureuse épanouie. Je vous souhaite plein de bonnes choses aujourd'hui et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao. Bonjour à tous. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour parler du prochain magazine Innovation en éducation numéro 20, entièrement consacré à l'éducation positive. Sommes-nous allés trop loin ? Nombreux sont les podcasts et les interviews qui tirent à boulets rouges sur l'éducation bienveillante et ses apôtres. Elle serait responsable du gâchis de toute une génération d'enfants rois immatures, incapables de tolérer la moindre frustration. Alors ils ont peut-être raison, certains parents sont allés beaucoup trop loin en se soumettant à la dictature des émotions de leur progéniture. Est-ce pour autant qu'il faudrait revenir à une éducation plus ancienne? Existe-t-il une troisième voie, la voie du milieu? C'est tout l'enjeu du prochain magazine Innovation en éducation, garder ce qui nous semble le plus cohérent et abandonner définitivement qui nous semble vraiment désuet. Si vous n'êtes pas encore abonné au magazine Innovation et l'éducation, vous allez voir, le lien va apparaître en bas de l'écran et en quelques clics, vous pourrez rejoindre les plus de 6000 abonnés dans 40 pays. Je vous souhaite le meilleur là où vous êtes et je vous dis à très vite pour le prochain magazine Innovation en éducation. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Pour aller plus loin dans votre recherche, nous avons créé un magazine papier, le magazine Innovation en éducation. Un magazine que vous retrouverez uniquement sur abonnement, livré tous les 2 mois, partout dans le monde. Un magazine 100% éco-responsable, 80 pages en moyenne, sans publicité. À travers le Festival pour l'école de la vie ou le Congrès Innovation en éducation, nous rencontrons des milliers de professionnels qui proposent des solutions pour les parents, les enfants et les enseignants. Ce magazine se veut être un pont avec le podcast, nos événements et les films que j'ai réalisés. On se retrouve maintenant la semaine prochaine et entre-temps, je vous souhaite une très belle route.